Bonsoir. Les exonérations douanières ont causé une perte des revenus d'au moins 6,3 milliards de dollars entre 2011 et 2020 à l'État congolais, soit une moyenne annuelle de plus de 630 millions de dollars, a révélé le nouveau rapport du groupe d'études sur le Congo, GEC en sigle, publié vendredi 21 janvier dernier. Le secteur minier, considéré comme le moteur de l'économie congolaise, est le plus grand bénéficiaire de ces exonérations selon ce rapport du GEC qui précise que les exonérations douanières pour les sociétés minières se sont élevées à 2,8 milliards de dollars entre 2011 et 2020. Quelle lecture faire des révélations contenues dans ce rapport? Comment le gouvernement devrait-il gérer efficacement la question des exonérations? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce jeudi 27 janvier 2022. Participe au débat professeur Albert Maloukissa, professeur à l'Université catholique du Congo et chercheur au groupe d'études sur le Congo, GEC. Professeur Maloukissa, bonsoir.
Bonsoir, madame la journaliste.
Fabrice Ngabo, chercheur et consultant en fiscalité et finance. Fabrice Ngabo, bonsoir. Fabrice Ngabo, bonsoir. Je crois qu'il a un petit souci avec son téléphone. Et Al Kitenge, analyste économique et stratège. Al Kitenge, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Vous êtes très nombreux, auditeurs de Radio Kapi, à réagir au thème de ce soir. C'est le cas de Guy Kambui Mbanza depuis Kananga au Kasaï central. La loi des finances en RDC reconnaît cette procédure d'exonération, mais avec des conditions pouvant permettre l'octroi de cette exonération. Mais malheureusement, dans notre pays, ce sont des sociétés appartenant aux hommes politiques ou à leurs proches sans être dans les conditions de bénéficier de cette procédure d'exonération, les plus grands bénéficiaires par la corruption. Jacques Molaï pense que c'est un système de corruption bien organisé par les services de douane comme point de chute rétro-commission. À Lubumbashi, dans la province de Katanga, vous nous suivez sous la 95.8. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net ou encore sur Canal+, Channel 572. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
L'État congolais a perdu plus de 630 millions de dollars par an entre 2011 et 2020 à cause des exonérations douanières. Conclusion d'un nouveau rapport publié vendredi 21 janvier par le groupe d'études sur le Congo GEC, basé à l'Université de New York. Selon le GEC, ces exonérations sont accordées essentiellement aux entreprises qui appartiennent en tout ou en partie aux personnalités politiques. Ce rapport précise aussi que le secteur minier est le plus grand bénéficiaire de ces exonérations. Rachel Kiesse pour les détails.
Le groupe d'études sur le Congo GEC collecte depuis 2018 des données sur les exonérations fiscales, notamment en examinant les pertes enregistrées par la Direction générale des douanes et assises. De 2011 à 2020, les données en possession du GEC indiquent que les exonérations douanières ont causé une perte des revenus d'au moins 6,3 milliards de dollars, soit une moyenne annuelle de plus de 630 millions de dollars. Dans ce rapport, le GEC se focalise sur deux avantages fiscaux fournis dans les cadres des douanes, les exonérations dérogatoires et celles fournies dans le cadre du partenariat stratégique sur la chaîne de valeur. Les secteurs miniers, considérés comme le moteur de l'économie congolaise, est le plus grand bénéficiaire des exonérations. Les exonérations douanières pour les sociétés minières se sont élevées à 2,8 milliards de dollars entre 2011 et 2020. Comme ces exonérations fiscales sont sujettes à des abus, les gouvernements congolais devraient y mettre fin, exception faite à celles qui sont autorisées à une loi spécifique. Pour toutes les autres exonérations, les ministères des Finances devraient rendre publiques les justifications pour chaque entreprise bénéficiaire et devraient effectuer des audits pour prévenir des abus. Ce rapport affirme qu'une année après l'investiture de Félix Tshisekedi, les exonérations fiscales ont finalement fait couler beaucoup d'encre à la suite des enquêtes de l'IGF. Cette structure a conclu en août 2020 que la RDC enregistre une perte annuelle de 5 milliards de dollars américains à cause des exonérations et compensations fiscales dont certaines sont illégales.
Merci Rachel Kiesse, professeur Albert Maloukissa. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université catholique du Congo et chercheur au groupe d'études sur le Congo, GEC en sigle. Vous venez de publier un rapport sur les exonérations douanières qui ont causé une perte des revenus d'au moins 6,3 milliards de dollars entre 2011 et 2020, soit une moyenne annuelle de plus de 630 millions de dollars. Quels sont les éléments sur lesquels vous vous êtes basé pour dresser ce rapport?
Merci Madame la journaliste, je vous remercie pour cette initiative que vous venez de prendre d'organiser à nouveau cette émission sur les exonérations fiscales et douanières. Le GEC a pu, comme d'habitude, procéder à des enquêtes fouillées, d'abord au niveau de la Direction générale des douanes et accises. Hein. Nous avons pu accéder aux données des services concernés, et puis nous avons réalisé des interviews, nous avions contacté des personnes clés pour nous renseigner sur cette situation des exonérations fiscales, aussi bien au niveau de la DGDA que de certaines entreprises, même au niveau de la FEC, voilà.
Professeur, où c'est que vous revelez dans ce rapport? L'Inspection générale des finances l'avait déjà fait il y a quelque temps. Alors, quels sont les éléments nouveaux que ce rapport apporte?
Bon, d'abord, le travail de l'IGF avait fait couler aussi beaucoup d'encre et de salive. Hein. Vous savez que les chiffres avancés par l'inspecteur général des finances, chef des services, les 5 milliards de dollars qu'on perdrait, que le Congo perdait chaque année, n'étaient pas acceptés par les ministres des finances même de l'époque, ou le ministère des finances dans son ensemble. Donc, il y avait un débat concernant ces manques à gagner. Alors, évidemment, l'Inspection générale des finances aussi n'avait pas donné des chiffres assez détaillés nous renseignant sur les bénéficiaires des exonérations. C'est ce que le GEC a essayé de faire après. Et aussi, je pense que ce rapport donne beaucoup plus de détails sur l'économie politique des exonérations dans leur ensemble, ce qui concerne principalement les exonérations douanières.
Professeur Maloukissa, lorsque l'IGF a publié son rapport, il faisait état des 1300 exonérations avec un manque à gagner évalué à près de 5 milliards de dollars américains. Est-ce que à ce jour, nous sommes toujours à 1300 exonérations ou depuis l'avènement de Félix Tshisekedi, ça a baissé parce que le chef de l'État avait demandé, on va se rappeler, hein, de mettre de l'ordre dans cette affaire d'exonération?
Oui, les exonérations concernant les partenariats stratégiques sur la chaîne de valeur, effectivement, ces exonérations-là ont baissé. Bon, évidemment, ça fait l'objet aussi d'un procès parce que les entreprises qui en avaient bénéficié estimaient que c'était dans la légalité qu'elles avaient obtenu ces exonérations. Donc, il y en a qui avaient porté plainte, qui avaient saisi la justice. La justice avait demandé qu'on puisse se soir. Mais dans tous les cas, la DGD avait déjà procédé à la suspension de ces exonérations relevant du partenariat stratégique. Ça baissait aussi en partie en ce qui concerne les exonérations dérogatoires. Mais dans l'ensemble, ces exonérations continuent à peser énormément sur le budget de l'État congolais, sur la capacité de mobilisation des recettes publiques.
Alors à ce jour, nous sommes à combien d'exonérations après l'enquête menée par le GEC?
Cette question mériterait d'être posée au niveau de l'Inspection générale des finances et du ministère des finances parce que à notre niveau, nous n'avions pas à chercher à entrer dans les détails des bénéficiaires des honorations en termes des documents qui leur ont été délivrés. Nous avions évalué ce que le trésor public a perdu pendant les 10 dernières années et un travail devait être fait au niveau du gouvernement pour la suppression des exonérations considérées comme illégales, mais ce travail-là est encore en cours, n'a pas encore produit les effets attendus. Donc je ne saurais pas m'hasarder à vous avancer un chiffre parce que jusqu'à présent, le gouvernement n'a pas encore rendu public ses conclusions, non plus l'Inspection générale des finances et même les administrations fiscales concernées.
Professeur Albert Maloukissa, vous êtes professeur à l'Université catholique du Congo. Cette émission est aussi pédagogique. Alors, pour ces auditeurs qui nous suivent en ce moment partout en RDC et même à l'étranger, c'est quoi une exonération et à quoi elle sert?
Voilà, en bref, une exonération, c'est tout simplement le fait que l'État dit à un contribuable de ne pas payer un impôt ou une taxe donnée. Vous êtes une entreprise, quand vous travaillez, vous devez payer, par exemple, l'impôt sur les bénéfices. vous devez payer l'impôt foncier, vous devez payer l'impôt sur le revenu des expatriés, par exemple. Alors, l'État vous dit, écoutez, vous faites, quand vous devez importer les marchandises, quand vous devez importer les équipements, il faut payer les droits des douanes. L'État vous dit, non, ne payez pas. L'État le fait pourquoi? Ça fait partie des politiques publiques visant à attirer les investisseurs. Dans les pays comme le Congo, où on n'a pas des moyens importants, par exemple, pour accorder des subventions, c'est-à-dire que l'État apporte plutôt des capitaux, de l'argent frais aux entreprises pour les attirer ou pour soulager leurs besoins de trésorerie ou pour leur aider à investir davantage. Donc, nos États étant pauvres, l'État congolais étant pauvre, on ne peut pas accorder des subventions. On a l'habitude plutôt de dire aux entreprises, écoutez, vous voulez investir, ok, d'accord, vous ne payez pas les impôts, vous ne payez pas les taxes pendant une certaine période. Bon, les entreprises sont là pour les bénéfices. Le fait qu'on ne paye pas certains impôts, certaines taxes, ça peut faire en sorte que les investisseurs gagnent davantage. C'est cette politique-là qui est mise en œuvre, pas seulement au Congo, mais dans beaucoup de pays en développement aussi. C'est destiné principalement à attirer les investissements directs étrangers. C'est destiné à attirer des entreprises multinationales, mais aussi du point de vue local. Parce que nous avons des entrepreneurs aussi qui doivent nous aider dans l'optique d'une indépendance économique. Il faut promouvoir leurs activités. L'État peut aussi leur accorder des exonérations. En bref, c'est ce que je peux dire sur cette question.
Dans ce rapport, professeur, vous dites que ces exonérations sont accordées essentiellement aux entreprises qui appartiennent en tout ou en partie aux personnalités politiques.
Non, si on lit bien les rapports, nous disons plutôt que c'est des entreprises proches des acteurs politiques et aussi des entreprises des acteurs politiques figurent parmi les grands bénéficiaires. Il y a beaucoup d'entreprises étrangères qui se sont installées au Congo qui, du fait du code des investissements ou du code minier, doivent en bénéficier. Il y en a. Mais nous savons aussi que dans notre économie, beaucoup d'acteurs politiques sont devenus des entrepreneurs, des investisseurs, et ils ont profité du système. Et beaucoup d'entreprises privées qui s'installent au Congo, beaucoup d'entreprises multinationales ont généralement derrière elles des hommes politiques puissants qui protègent leurs intérêts. Alors, c'est ainsi que ce système-là, où les hommes politiques entre dans les jeux économiques juste pour des intérêts, mais c'est des intérêts personnels. Évidemment, ça dérange, ça désarticule un peu la capacité des régies financières à mobiliser davantage, à maximiser les recettes publiques. Et de ce point de vue, c'est nuisible parce que si vous accordez les exonérations à certaines entreprises prioritairement et vous en excluez d'autres, là, il n'y a pas, vous faites deux fois deux mesures, donc ça fait aussi décourager certains investisseurs à venir s'installer au pays. Parce que c'est une entreprise d'une autorité publique, on élargit des exonérations de manière fantaisiste, là encore c'est mauvais. Donc je précise bien, dans ces rapports, il y a des exonérations qui ont été légalement accordées, qui ne peuvent pas soulever des questions, mais il y a des exonérations aussi, d'autre part, qui nous ont poussé à nous interroger sur leurs bénéficiaires. Et parmi leurs bénéficiaires, nous avons retrouvé effectivement certaines entreprises qui appartiennent aux dirigeants politiques et dont certains ont même fait l'objet de dernières publications qui ont encore démontré des scandales financiers en RDC et des Congo Hold'em.
Fabrice Ngabo, vous êtes chercheur et consultant en fiscalité et finances. Quelle lecture vous faites des révélations contenues dans ce rapport du GIEC?
Bonsoir madame, bonsoir aux co-débatteurs. Je tiens d'abord à vous remercier pour l'invitation. Et ensuite, notez que ce sujet est d'un intérêt très capital en ce moment où l'État est à la recherche des ressources financières nécessaires pour financer les besoins de la population, pour financer l'état de siège à l'Est, pour financer beaucoup de promesses électorales qui ont été faites par le président de la République, et j'estime qu'il est de bon aloi de jeter un œil du côté des exonérations pour voir s'il n'y a pas une possibilité d'améliorer la gestion de cet aspect pour éviter à l'État de continuer à perdre davantage les moyens. Alors, le groupe d'études sur le Congo venait de rendre son rapport dans lequel il déplore ces exonérations-là. D'abord, par définition, l'exonération, c'est une dispense temporaire accordée à une entreprise pour ne pas payer certaines charges fiscales et non fiscales pendant une période donnée. Mais maintenant, les manques à gagner...
La durée peut-être de combien de temps, Fabrice Ngabo?
Bon, ça dépend de comment le dossier a été étudié par l'État à travers la porte d'entrée. De façon générale, qu'est la NAPI, l'Agence nationale de la promotion d'investissement, parce que, comme vous le savez, avec la loi portant code des investissements, cet établissement a été institué pour canaliser toutes les demandes de dispenses, n'est-ce pas, à l'État congolais. Et donc, la procédure commence par la NAPI, mais il faut noter que dans chaque secteur, par exemple dans le secteur minier, il y a un code des impôts, et il y a un code minier qui prévoit également les procédures et les conditions. Vous avez les codes, vous avez la loi liée à chaque secteur, notamment le code, le secteur forestier, ainsi de suite. Et donc, j'estime que l'exonération n'est pas une mauvaise chose en soi. L'exonération fait partie des techniques que l'État peut y mettre en œuvre pour pouvoir inciter et motiver davantage les investisseurs à pouvoir investir. Comme vous le savez, c'est seulement l'investissement qui peut sauver une nation, parce que dans l'investissement, on arrive à créer davantage la richesse, on crée les possibilités pour permettre à l'État lui aussi de se retrouver en termes d'impôts, droits, taxes et redevances. On permet de créer les emplois pour la population. Et bref, l'investissement est important, il faut le motiver. Mais ce qui n'est pas intéressant, c'est de voir la complaisance dans laquelle certaines exonérations ont été accordées par amitié, tel opérateur économique est ami à tel responsable politique, alors il abuse de son pouvoir pour les dispenser des paiements des ressources à l'État, et cela crée un manque à gagner pour l'État, et là on va déplorer l'inefficacité de l'État dans ses fonctions régaliennes, parce que l'État ne peut pas assumer ses responsabilités sans ressources financières.
Bon, moi
le Congo a eu à mener davantage des enquêtes pour affirmer ce montant, mais la somme des 6 milliards sur la période 2011, je crois 2020, ne me semble pas suffisante, cette somme. Peut-être que s'ils avaient fouillé davantage, le montant irait plus loin. Mais moi je me dis, ce n'est pas non plus en supprimant toutes les exonérations que l'État finalement va se donner des moyens. Non, nous avions plusieurs fois discuté sur la question et nous avons laissé entendre que ce qui peut sauver l'État, c'est plutôt améliorer le climat des affaires dans notre pays. Et beaucoup d'opérateurs économiques recourent à l'État à la recherche des exonérations lorsqu'ils se retrouvent face à un système économique ou à un système fiscal qui est rempli de tracasseries administratives. C'est-à-dire, vous avez d'un côté le domaine fiscal, c'est-à-dire les impôts qui ne posent pas problème parce qu'ils sont connus, maîtrisés et suivis par la DGI. Vous avez de l'autre côté le domaine non fiscal qui est rempli de tout le monde, de toutes les administrations qui ne doivent pas intervenir auprès des entreprises. Vous avez la police judiciaire qui vous vient, vous avez le ministère de l'économie qui vous vient sur plusieurs taxes, des taxes qui sont légales et d'autres non légales, et c'est toutes ces tracasseries-là qui poussent finalement certains entrepreneurs à forcer pour obtenir, même par les voies qui sont illégales, certaines exonérations. Moi, je pense que le salut de notre économie, le salut de notre République repose sur la responsabilité de l'État à pouvoir, avant tout, mettre de l'ordre dans le système fiscal. Si on fait aujourd'hui un état des lieux, il y a un certain nombre de taxes, de redevances qui doivent être supprimées pour décharger les opérateurs économiques des charges inutiles et leur permettre d'être compétitifs, efficaces et assumer les fonctions qui sont les leurs, celles de créer la richesse dans la société.
Fabrice Ngabo, une question pédagogique. Qui peut être bénéficiaire d'une exonération?
Bon, tout le monde peut être, tout opérateur économique peut être bénéficiaire d'une exonération, mais à la seule condition de se soumettre à la procédure qui est prévue par différentes lois. Je vous ai dit que dans chaque secteur, il y a une loi qui prévoit des conditions mais de façon générale, vous avez le code d'investissement qui prévoit que tout demandeur d'exonération doit d'abord s'adresser à l'ANAPI, à l'Agence nationale de promotion des investissements, qui étudie les dossiers et qui transmet le dossier au ministère concerné, et l'exonération sera confirmée ou, si vous voulez, signifiée à l'intéressé par un arrêté. Et donc, on ne peut pas se prévaloir d'une exonération quand on est bénéficiaire d'une lettre qui a été émise par exemple par un ministre dans les conditions qu'on ne connaît pas. Non, l'exonération est reconnue ou confirmée, si vous voulez bien, par un arrêté qui est en bonne et due forme élaboré par les ministres concernés, les différents ministres concernés. C'est un arrêté interministériel généralement qui accorde l'exonération.
Alors très brièvement, que pensez-vous de ce point de vue de Jacques Moulaï qui pense que c'est un système de corruption bien organisé par les services des douanes avec pour finalité la rétrocommission?
Bon, on ne peut pas exclure l'hypothèse de corruption parce que c'est un mot qui ronge notre société, mais ce n'est pas non plus tout le monde qui a versé dans ce genre de pratiques. L'exonération, je crois, à laquelle on fait allusion les experts de GEC, ce sont des exonérations qui sont illégales, c'est-à-dire des exonérations qui ont été accordées dans les conditions qui ne sont pas prévues par les lois. Où vous trouvez par exemple un opérateur économique qui est proche des ministres et voilà, il lui accorde une exonération. Mais il y a aussi un autre phénomène auquel peut-être on n'a pas fait allusion, c'est le fait qu'il y a des personnes qui ont cédé les exonérations, ce qui n'est pas normal. Vous avez un opérateur X qui a reçu une telle exonération ou même une confession religieuse, mais qui arrive à couvrir les importations d'une autre entité qui doit plutôt payer la TVA et les autres droits de douane. Et c'est une pratique qui a été décriée à son temps et qui doit être combattue aujourd'hui parce que tout ça, ce sont des pratiques fiscales illégales qui consacrent le fuite des capitaux, qui consacrent le manque à gagner énorme pour l'État. Et je pense que dans une société responsable où les citoyens sont sérieux, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire à la fois.
Merci.
D'une part, nous exigeons à l'État d'être à la hauteur des attentes du peuple et d'autre part, nous les privons des moyens à travers certaines pratiques qui sont illégales.
Alain Kitenge, analyste économique et stratège, quelle analyse vous faites des révélations contenues dans ce rapport du groupe d'études sur le Congo, plus de 630 millions de dollars par an entre 2011 et 2020, perdus à cause des exonérations douanière illégale?
Oui, nous sommes là en face de ce qu'on appelle des fraudes politiquement motivées et très malheureusement, on retrouve là-dedans également des hauts officiers de notre armée, essentiellement dans les postes frontières. Je pense que lorsque on fait des exonérations, cela répond à une politique publique bien déterminée et les deux intervenants tout à l'heure le disaient, ça peut avoir comme intention d'inciter un certain nombre d'investissements. Cela sous-entend qu'en fait, au bout d'un certain temps, on doit quand même faire la comptabilité des mesures fiscales que l'on a prises ou des incitations fiscales que l'on a prises, c'est-à-dire combien cela a coûté à la République et combien cela a rapporté à la République. C'est ce qui détermine justement qu'on pense qu'une mesure est bonne ou elle ne l'est pas. Le drame chez nous, c'est qu'on constate une iniquité. Ce sont des faveurs sans contrepartie, déséquilibrant les forces du marché et bien sûr poussant ceux qui sont défavorisés par la compétition avec ceux qui sont favorisés à aller rechercher d'autres formes de fraude pour être en mesure d'équilibrer le marché. Il faut malheureusement reconnaître, et le rapport de l'initiative Les Intègres le dit de manière assez claire, c'est que très malheureusement, nous avons nagé de manière honteuse pendant trop longtemps dans la corruption consacrée en normes. Je crois qu'il est important que l'on se rende compte que le secteur minier nous a menti de par le code minier numéro 1. Si on regarde aujourd'hui la comptabilité, des choses du genre, on permet aux miniers de pouvoir importer du carburant sans aucune taxe payée, simplement parce qu'on considère le carburant comme étant un intrant. Mais en fait, la vérité, c'est que lorsque vous regardez cela, c'est de l'argent que l'État cède aux miniers. Je vous donne un deuxième exemple, c'est que les miniers qui utilisent le courant de la SNEL l'achètent à 5 centimes le kilowattheure, alors que les mêmes miniers achètent le courant venant de la Zambie, le courant importé, à 15 centimes le kilowattheure. Alors, vous vous rendez bien compte qu'il y a un très sérieux problème. Parce que finalement, vous savez, les investisseurs qui veulent produire du courant ici disent non, je préfère m'installer en Zambie, je produis le courant là-bas, je le vends à 15 centimes, plutôt que de le produire ici, parce que je vais être obligé de le vendre à 5 centimes. Donc il y a des mesures que l'État congolais doit être en mesure de prendre, mais tout en sachant pourquoi il les prend. Maintenant, je voudrais juste revenir sur cette question fondamentale de la transparence et de redevabilité. Aujourd'hui, lorsque vous regardez ces contrats frauduleux, politiquement motivés, qui sont faits en faveur d'un certain nombre d'opérateurs qui s'assoient du côté du pouvoir et du côté des opérateurs économiques, qui constituent un conflit d'intérêts permanent et en fait qui est la honte la plus totale d'un pays où on se rend compte que ce sont ses propres dirigeants qui posent des actes délictueux qui en fait volent l'État congolais. Nous devrons être en mesure d'en demander pardon de manière global. Mon point de vue reste le même, c'est que si au bout d'un temps on s'aperçoit qu'un certain nombre de personnes ont reçu des faveurs frauduleusement en abusant de la loi, il est important de faire la comptabilité et leur demander de rembourser. C'est cela la justice. C'est ce qui peut permettre à l'État congolais de pouvoir se retrouver dans ses droits et aux citoyens congolais de dire tiens, voilà finalement un État responsable qui nous remet dans nos droits. Mais c'est aussi un message fort et puissant qui va faire comprendre à tous les autres que tout finit par se savoir un jour ou un autre. Et tout finit par se redresser un jour ou un autre pour que les fautes qui ont été commises dans le pouvoir passé ne reviennent pas aujourd'hui. Parce que très malheureusement, on constate qu'il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent reproduire exactement ce qui a été fait dans le pouvoir passé et qui est aujourd'hui décrié.
Oui, Alky Tengue, il y a quelque temps, le chef de l'État avait décidé lors d'un conseil de ministres que toute exonération fiscale, non fiscale et douanière octroyée par une simple lettre ou sans arrêté ministériel émise selon la procédure légal devrait être annulé sans aucun délai, mais on constate aujourd'hui que malgré la décision prise par le chef de l'État, cette pratique continue.
Ça sous-entend qu'en fait, il y a une indiscipline notoire qui se observe au niveau de la gouvernance même de l'État. Des décisions du Conseil des ministres ne doivent pas être discutées, elles doivent être réalisées. S'il y a des discussions, on les fait à l'intérieur du Conseil des ministres. À partir du moment où ça a été décidé et acté au Conseil des ministres, si on ne les réalise pas, ça veut dire qu'en fait, nous n'avons pas la capacité de gouvernance disciplinée. Et ça, c'est des choses honteuses. Et moi, je félicite beaucoup le GEC qui fait ce rapport, qui en fait rend service non pas à l'État congolais, mais aux citoyens congolais. Et moi, je me pose juste la question de savoir qui finance le GEC. Et peut-être que le professeur nous le dira tout à l'heure. Parce que mon souhait, c'est que toutes les organisations de défense des droits des Congolais, qu'ils soient économiques ou sociaux, devraient être financées par les Congolais. Ça permet justement d'éviter toute tendance à la politisation ou à la sensibilité à l'extérieur par rapport aux études qui sont faites. Le jour où le Congolais comprendra qu'il faut qu'il finance la protection de ses propres droits, les choses iront nettement mieux. Moi, je voudrais juste dire une chose, et peut-être que je vais vous laisser la parole tout à l'heure, c'est la notion discriminatoire d'investisseur. On a tendance à appeler n'importe quelle personne qui se pointe ici avec une mallette investisseur. Non, il faut quand même faire la différence entre un investisseur et un opérateur économique. Aujourd'hui, la notion d'investisseur que l'on a aujourd'hui donne toutes les faveurs. L'État est déshabillé de toutes ses capacités en faveur des opérateurs économiques. Et ce qui s'est passé avec le code minier est totalement inacceptable. Et aujourd'hui, on s'aperçoit malheureusement que ça continue et les gens ne comprennent pas. Un peu comme si on nous avait tétanisé. Quand on dit investisseur, tout de suite, il y a un mot qui vient après, investisseur étranger. Comme quand on dit quelqu'un qui quitte le pays et qui arrive dans notre pays et qui voudrait aller regarder les différents sites, on considère que théoriquement, ça devrait être un blanc. Non. Les premières personnes qui doivent visiter un pays, ce sont les citoyens du pays. Les premières personnes qui doivent investir dans un pays, ce sont les citoyens du pays. Et lorsque vous regardez la nature de l'argent que les soi-disant investisseurs mettent chez nous, c'est de l'argent qu'ils empruntent sur base de nos assets et de nos potentialités. Il est donc possible pour nous de pouvoir le structurer et pouvoir le monter. La dernière des choses que j'ai envie de dire, c'est lorsque vous regardez la question de la gestion des exonérations en question, entre les listes qui partent de la NAPI, celles qui arrivent au ministère du Plan et celles qui arrivent au ministère des Finances, il y a un truandage honteux parce qu'il y a des gens qui substituent des listes. Entre celles qui ont été autorisées au ministère du Plan et celles qui ont été autorisées au ministère des Finances, ne sont même pas les mêmes que celles qui ont été autorisées au niveau de la NAPI. Et je pense qu'il est important d'insister sur la digitalisation du système pour être en mesure d'avoir des informations que personne ne peut toucher. Les derniers qu'il faut toucher également dans ces exonérations, ce sont des ONG, malheureusement, trafiquent les droits qu'ils ont à pouvoir travailler dans le secteur social et être exonérés et utilisent cela pour être en mesure de faire de l'économie. Mais également, tous les 5 chantiers, tout le monde a vu ce qui s'est passé et les Chinois continuent à faire la même chose. Ils obtiennent des exonérations pour construire un bâtiment. Ils importent 3 fois plus de biens que nécessaire. Le reste, ils le vendent. Et je crois que nous devons être en mesure sérieux. La traçabilité de l'information est la seule chose qui peut nous permettre d'éviter ce genre de choses.
Professeur Maloukissa, il y a des auditeurs qui sont nombreux à appeler, qui veulent aussi intervenir. On va prendre pour vous cet auditeur qui nous appelle depuis Kananga, dans la province du Kasaï central.
Maître Alidor Mampouya, avocat au barreau du Kasaï central et résident dans la ville de Kananga. Les exonérations injustifiées accordées à certaines sociétés et entreprises sont un fait réel en République démocratique du Congo et constituent en fait un véritable manque à gagner pour les trésors publics. Malheureusement, l'actuel régime suit le sentier battu par l'ancien régime et certaines personnalités critiques de ces régimes s'enrichissent aussi derrière ces exonérations qui ne font qu'être reconduites chaque année qui passe au niveau de certains ministères. Ainsi donc, si on veut arrêter cette hémorragie d'évasion et fraude fiscale, le gouvernement congolais doit mettre sur pied en toute urgence une commission chargée d'identifier les sociétés et entreprises bénéficiaires des exonérations injustifiées et étudier ainsi cas par cas de ces exonérations. Ensuite, le gouvernement doit imposer des pénalités à toutes les sociétés qui ont bénéficié durant quelques années des exonérations injustifiées et annuler aussi tous les actes juridiques qui ont accordé ces exonérations. En même temps, on doit aussi punir les différents acteurs ou politiciens qui ont accordé ces exonérations en violation de la loi. Et désormais, chaque cas d'exonération doit être examiné en conseil des ministres et ça ne doit plus être l'apanage d'un quelconque ministre ou membre du gouvernement.
Professeur Maloukissa, que pensez-vous de la proposition de cet auditeur qui nous a appelé depuis Kananga, une proposition pour éviter des abus afin que les exonérations profitent au trésor public?
Bien, merci pour la question. Je commencerai par répondre à la préoccupation de Alkitegui. Le GEC est basé à l'Université de New York, donc bénéficie des subventions, des subsides des partenaires, malheureusement qui n'ont pas, enfin qui nous donnent une certaine ligne de conduite pour ne pas faire leur publicité, mais c'est comme une simple organisation non gouvernementale qui a besoin de l'assistance de certains partenaires. Donc nous en recevons principalement des partenaires occidentaux, ça se comprend, mais d'ailleurs la bonne nouvelle que je vous annonce, GEC va ouvrir un petit bureau à Kinshasa, en partenariat avec une ONG locale, Ebouteli, qui va d'ailleurs lancer ses activités bientôt. Donc à ce moment-là, nous aurons besoin aussi des contributions des partenaires congolais pour nous aider à réaliser un certain nombre d'études. Alors, la préoccupation de M. Mampouya, bon, je comprends bien ce qu'il voulait dire, mais écoutez, le gouvernement a une commission qui a déjà examiné ces problèmes de exonération. Le problème fondamental, c'est lié à la gouvernance du pays, je dirais mieux d'ailleurs à la mauvaise gouvernance. Combien de commissions ne créent pas au Congo, qui ne rendent même pas leurs conclusions à l'Union nationale, qui ne rendent pas leurs conclusions à l'Assemblée nationale, au Sénat et même au niveau du gouvernement. Donc le plus grand souci, c'est de pouvoir mettre vraiment de l'ordre dans le fonctionnement de nos institutions publiques. Il faut attirer une volonté politique d'assainir les finances publiques, lutter contre la corruption pour que les choses marchent. Regardez, aujourd'hui, on a des gens qui ont été arrêtés pour corruption, mais quelques mois après, se sont retrouvés en dehors de la prison. Aujourd'hui, ils mènent leur vie comme tous les citoyens congolais, alors qu'ils ont causé du tort au peuple congolais. Donc, à partir du moment où nous n'avons pas des régimes politiques engagés sérieusement dans la lutte contre la corruption, on va continuer à instituer des commissions, rien ne va changer, rien ne va marcher.
Fabrice Ngabo, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu, dans la province du Sud-Kivu.
C'est Patrice Ngabo qui nous appelle depuis la ville de Bukavu, dans la province du Sud-Kivu. Nous saluons les résultats de ce rapport, même si nous savons déjà que nous dirigeants ne prennent jamais de différentes révélations. Recommandation que fournissent les différents services chargés du contrôle financier dans des institutions de statut. Par ailleurs, un constat amer, si le secteur minier peut bénéficier demander de telles exonérations, alors que différentes enquêtes menées dans ce secteur déplorent un détournement dans ce secteur. D'où, à mon avis, je pense que l'exonération devrait dépendre de la façon dont chaque service contribue au trésor public de notre pays.
Fabrice Ngabo, les exonérations devraient dépendre de la façon dont chaque entreprise ou service contribue au trésor public.
Bon, c'est son point de vue, c'est le point de vue de mon compatriote qui a appelé de Bukavu. Bon, je ne pense pas. Une entreprise qui se sent dans les besoins, n'est-ce pas, de solliciter une exonération peut le faire, et il appartient à l'État d'apprécier si oui ou non il peut accorder cette dispense de paiement de recettes fiscales. Alors, je constate que la récurrence de cette question des exonérations veut donner l'impression que finalement l'État a considéré que le principal moyen pour motiver, exciter, n'est-ce pas, l'investissement, c'est l'exonération. Alors qu'en réalité, les autres nations, pour avoir sur leur sol beaucoup d'investissements, elles n'ont pas agi sur ces leviers d'exonération. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont d'abord commencé par rationaliser leur environnement, leur climat des affaires, n'est-ce pas, en mettant de côté toutes les tracasseries, en mettant de côté toutes les pesanteurs qui empêchent aux entreprises de fonctionner normalement. Et là, j'ai fait allusion à tout ce qu'il y a comme taxes illégales, ainsi de suite. Le deuxième aspect, c'est que les autres nations, elles ont commencé par exploiter le domaine de ce qu'on appelle conventions fiscales internationales, c'est-à-dire l'État congolais signe une convention avec d'autres États avec lesquels il est en relation commerciale intense, et dans ce genre de textes, on définit des avantages, n'est-ce pas, aux entreprises. Et par exemple, si on peut signer une convention entre la RDC et la Chine, on définit que l'impôt sur les bénéfices et profits n'est pas de 35%, mais est par exemple de 10%. On n'a pas un seul discours à tenir aux investisseurs chinois pour qu'ils viennent investir dans notre pays. Voyez-vous? Voilà pourquoi je suis en train de vouloir encourager le chef de l'État, à travers les différentes tournées qu'il continue à effectuer, à pouvoir nous aider en tant qu'État à décrocher des conventions fiscales avec d'autres nations, pour nous permettre d'avoir les investisseurs sérieux et attendus. Aujourd'hui, nous avons seulement deux conventions fiscales internationales, alors que d'autres nations, notre nation en a beaucoup, nous avons même de certains pays africains qui ont 10, 15, 20 conventions avec d'autres nations. Nous n'en avons que deux. Moi, je voudrais que sous le mandat du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous puissions être dotés de beaucoup de conventions avec d'autres nations, et cela nous permettra maintenant d'avoir des investisseurs, des investissements à la hauteur des besoins en emploi de la population.
Merci.
Des investissements à la hauteur du budget de l'État. Ainsi, je pense que nous aurons rencontré les saluts pour la nation et non compter uniquement sur les dispenses de l'État qui crée par contre un manque à gagner énorme pour un État qui déjà n'a pas de ressources.
Al-Kitenge, le GEC demande au ministère des Finances de rendre public les motifs d'exonération pour chaque entreprise bénéficiaire. Il recommande également des audits pour prévenir les abus. Qu'est-ce que vous en pensez?
On appelle ça en gouvernance la gouvernance ouverte. Ça veut dire qu'en fait, les statistiques doivent être connues, les rapports et les informations publiques doivent être du domaine public. Il n'y a aucune raison de cacher les informations de l'État. C'est pour ça que j'appelle toujours la gouvernance congolaise à devenir une gouvernance compétitive. Et la compétitivité passe par de bonnes infrastructures, mais aussi par le capital humain de qualité, par un engagement pour la corruption zéro, par l'informatisation et la simplification fiscale. Et ça, c'est une chose qui détermine une certaine discipline qu'on est capable de montrer à l'extérieur et donner une image de marque qui donne l'attractivité d'un pays. Et donc, les choses doivent être simples pour que tout le monde se batte selon les mêmes règles et que tout le monde ait les mêmes avantages, que les meilleurs gagnent le marché. Et aujourd'hui, ce qui nous tue, et je vais le redire encore une fois, c'est le conflit d'intérêts permanent dans lequel s'installent les hommes politiques en République démocratique du Congo, qui n'ont aucune capacité de choisir, soit de faire de la politique et de jouir des avantages et donner, de servir les devoirs qui sont liés à leur métier, ou alors de sortir de là et de faire du business. En ce moment-là, on se soumet à la règle du business une fois pour toutes. Et je crois que si nous réglons cette question, je crois que le pays pourra avancer, parce que la seule chose que je dis tout le temps, c'est que le jour où on interrogera le code minier et qu'il vomira, nous tous ici, nous allons fuir.
Dans ce rapport toujours, le GIEC souligne quand même qu'il sera difficile pour le gouvernement de réaliser, de faire ce travail, parce que certains bénéficiaires des mesures sont encore au pouvoir aujourd'hui.
Mais n'importe quel pays au monde, un jour, s'arrête et dit « J'ai été suffisamment irresponsable et j'ai envie de changer, je voudrais être un pays intègre ». Et ça, c'est un devoir de l'homme qui en parle le plus, le chef de l'État. Il le dit, il parle tout le temps, il veut arrêter la corruption. La seule façon d'arrêter la corruption, c'est qu'elle doit s'arrêter pour tout le monde. Et ça, il n'y a pas moyen de continuer à faire de l'injustice sur les nouveaux venus et penser qu'on peut régler le passé. Et la seule chose qui vous affaiblit lorsque vous êtes au pouvoir, c'est quand votre entourage commence à faire de la malpratique, parce que ça vous enlève les moyens d'agir. Et aujourd'hui, l'arbitre principal, c'est le chef de l'État. L'arbitre exécutif, c'est le premier ministre. Si les deux sont droits dans leurs bottes et ils décident qu'on fasse les choses, on avancera. Mais sans ça, c'est très difficile. Encore une fois, je voudrais rappeler ce que je disais tout à l'heure, ça finit par se savoir et un jour, quelqu'un va vous demander des comptes. Aujourd'hui, nous sommes très fiers d'avoir un Jules Alinguété qui nous montre de manière assez claire que l'État mérite d'avoir des citoyens sérieux, l'État mérite d'être protégé. Il est important qu'on sache que demain, il y aura un autre Alinguété avec un autre nom qui pourra être un autre pouvoir. Alors, en ce moment-là, ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir devraient se rendre compte que chaque chose a une fin. Et à la fin de cette chose, les règles peuvent changer.
Merci Alain Kitenge. On va considérer cela comme votre conclusion. Professeur Maloukissa, comment éviter des abus pour que les exonérations profitent au trésor public?
Je reviendrai sur la même considération, madame. Il faut qu'on lutte contre la corruption qui a atteint des proportions très inquiétante en République démocratique du Congo et au niveau de toutes les institutions. D'ailleurs, nous focalisons sur les entreprises, mais aussi des missions diplomatiques qui font perdre énormément d'argent au trésor public. Donc, il faut soigner la gouvernance et la qualité de la gouvernance qui fera même qu'on puisse s'effacer des exonérations fiscales, parce qu'on peut créer, améliorer le climat des affaires qui fera en sorte que, bon, les entreprises viennent s'installer ici parce qu'on a des bonnes infrastructures, parce que la justice fonctionne correctement, parce que va évoluer dans des conditions satisfaisantes. Je pense que c'est l'essentiel. Améliorons notre gouvernance et ça me permettra de résoudre tous les problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui.
Merci, professeur Maloukissa. Fabrice Ngaboya, Roméo Kituba, qui nous écrit depuis Lubumbashi, qui estime que pour gérer efficacement la question des exonérations, le gouvernement doit respecter toute la procédure en la matière, car notre économie est extravertie, accorder des exonérations sans respect des procédures, c'est ce qui occasionne ce manque à gagner dans les caisses de l'État. L'État doit user de son pouvoir afin d'arrêter tous ceux qui ont été impliqués dans l'octroi de ces exonérations. Il vous rejoint dans votre analyse de tout à l'heure, Fabrice Ngabo, mais en guise de conclusion, qu'est-ce qu'il faut faire réellement pour que la décision qui avait été prise par le chef de l'État soit mis en application?
Je pense que les différents ministres sectoriels doivent se mettre chacun en ce qui les concerne au travail pour pouvoir appliquer les résolutions du Conseil des ministres, notamment celles qui consistent à retirer, n'est-ce pas, ces exonérations aux personnes qui n'en ont pas droit, qui n'en ont pas droit. Et je pense qu'en termes de conclusion, il faut que l'État fasse un effort important dans la lutte contre la corruption. C'est très capital parce que je ne vois pas un pays qui peut prétendre évoluer avec un environnement pollué de la corruption, du niveau élevé de l'administration au niveau le plus bas. Deuxième élément, c'est que je pense qu'en ce moment, nous devons faire un état des lieux de notre système fiscal, un état des lieux de notre environnement économique pour pouvoir extirper du système fiscal congolais toutes ces pesanteurs qui empêchent les Congolais de briller dans leurs affaires, qui empêchent aux investisseurs étrangers de venir s'installer et de respecter les textes dans chaque secteur. C'est très important pour que tout le monde puisse tirer profit de la gouvernance de notre pays. C'est cela qui fera en sorte que la gouvernance soit inclusive et non exclusive comme c'est le cas.
Merci,
avec
Fabrice.
Notamment ces pratiques que tout le monde déplore et que nous déplorons depuis plusieurs années déjà.
Merci Fabrice Ngabo. Dialogue en Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer ce magazine. Guy Maté, Sandra Sifa sous la supervision de Martin Sebujangwe. Jean-Claude Thial a été à la mise en onde. Présentation et coordination, Kéline Couté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.